affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
Wakarimasu, Jan.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Transistor et c'est parti pour D'étoiles plein les yeux, votre magazine de cinéma sur nos ondes et on se retrouve cette semaine pour Voyage à Yoshino, le nouveau film de Naomi Kawase avec Juliette Binoche. Pas de coup de projecteur cette semaine, on revient dès la semaine prochaine mais on n'oubliera bien sûr pas nos petits conseils de sortie au cinéma. La toile cette semaine, c'est donc Voyage à Yoshino et les yeux, ce sont ceux de Marie et Ellie. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors Juliette Binoche, qui partage l'affiche avec Masatoshi Nagase, est une certaine Jeanne qui retourne donc à Yoshino, semble-t-il, au Japon. Alors oui, vous découvrez tout de suite, je n'ai pas vu le film. Endroit où elle a donc vécu sa première histoire d'amour il y a 20 ans, semble-t-il, et où elle retourne chercher une plante médicinale toute symbolique, tout en symbole, comme semble-t-il tout le film. C'est trois fois que je dis semble-t-il, on aura compris. Et donc je me tourne tout de suite vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ?
Alors déjà, t'en as fait un résumé assez clair, plus clair en tout cas que ma réception du film. Par exemple, toute cette histoire d'amour perdu, retrouvé et compagnie, ça on le comprend que par bribes, par des flashbacks, bon, qui sont pas hyper explicites. Ben, ça fait partie de la poésie du film. Alors le film, est-ce que j'ai aimé ou pas? j'ai vraiment pas trop aimé. Alors que a priori, le peu que je connais du cinéma de Naomi Kawase, ça me pousserait plutôt à apprécier son travail, à aimer sa vision, la façon dont elle filme la nature, etc. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait un échec du partage, quoi. Enfin, qu'elle arrivait pas à nous faire passer peut-être ce qui pour elle relève d'un rapport sincère et profond aux êtres, à la nature, à la spiritualité. Bon, j'ai trouvé que là, ça passait pas pour le coup.
Marie.
Oui, moi, j'ai pas été convaincue non plus par le film. Alors, c'est vrai qu'en voyant la bande-annonce, je me suis dit, pourquoi pas un film contemplatif, pourquoi pas plonger dans cette forêt japonaise. Bon, ça, j'étais pas contre, enfin, a priori, quoi. Je me disais, pourquoi pas, on va voir. Et c'est vrai que finalement, ça a pas vraiment marché sur moi non plus. Enfin, j'ai pas été emballée par ce film. J'ai pas vraiment voyagé à Yoshino alors que j'aurais aimé justement pouvoir le faire. En fait, il y a des éléments qui m'ont quand même plu. Bon, le côté quand même sensoriel du film, toute l'esthétique du film, etc. Mais je trouve qu'il y a des éléments qui ont vraiment bloqué un peu ce voyage que j'aurais aimé faire. Notamment l'intrigue, comme tu l'as évoqué, qui est vraiment... Enfin, je trouvais que c'était vraiment tiré par les cheveux et que ça apportait rien du tout. Au contraire, ça brisait toute la poésie du film. Et le deuxième élément qui m'a vraiment gênée, je sais pas si t'as ressenti ça aussi, c'est vraiment les dialogues. J'ai trouvé que c'était... c'était vraiment simpliste. Alors certes, c'est un film contemplatif, donc on s'attendait pas forcément à des dialogues qui soient complexes, etc. Ça aurait pu être des dialogues simples qui justement portent l'esthétique du film et portent la poésie du film. Mais là, j'ai trouvé que justement, ça cassait toute la poésie et ça suggérait pas du tout. En fait, c'était beaucoup trop explicite et ça cassait un petit peu tout ce qui aurait pu faire la magie de ce film qui pourtant... qui aurait pu être plus convaincant.
Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, le truc, c'est que peut-être la sensorialité, comme tu dis, le rapport à la nature, dans son film, en fait, c'est ça, on discute, on dialogue, on disserte sur l'amour, la mort, la souffrance, et puis entre deux discussions, on va caresser des arbres dans la forêt ou on boit du thé, voilà, en bonne compagnie.
On mange des spaghettis en tête à tête.
C'est exactement. En fait, les personnages, enfin, le problème, c'est les humains dans le film, parce que les arbres, ils sont très bien. Les plantes, elles sont magnifiques. Et voilà,
les
on n'entre pas dans.
Bien, mais pas les acteurs.
C'est ça. Non, j'ai trouvé Juliette Binoche insupportable. Enfin, en fait, vraiment, on en vient à dire, mais ne parle pas, quoi. Enfin, je veux dire, non, à des moments.
Ah oui.
À des moments, elle dit, à un moment, elle dit vraiment, en parlant du personnage principal, donc qui est un. Je sais pas, c'est pas un bûcheron, je sais pas comment. Enfin, bon.
Oui.
Du personnage principal. Oui, oui. Et justement, elle dit oui, et donc Tomo, il sait regarder la nature, il sait écouter la nature. Bah, justement, écoute-la, la nature, et tais-toi un peu. Parce que vraiment, parfois, ça devient carrément insupportable. Ces dialogues qui n'apportent rien et qui viennent casser toute la poésie, quoi. C'est...
En fait, ils sursignifient ce qu'il y a déjà dans l'image et dans la poésie de cette forêt.
Alors parlons-en de ce deuxième personnage, ce Tomo, dont on apprend d'ailleurs que c'est aussi lui qui jouait le fameux touriste de Patterson chez Jim Jarmusch. C'est un petit peu le même personnage du coup, non?
Ouais, c'est un petit peu le même genre. Bah, après, on le cerne pas dans le film. Lui, c'est pas celui qui parle le plus finalement.
Et c'est presque celui auquel on s'attache
exactement,
le plus.
C'est
vraiment justement, ouais. c'est et les scènes, moi que j'ai préférées, c'est celles où justement il y a pas de dialogue, où il est là à travailler dans la forêt avec le jeune garçon aussi qui va intervenir ensuite. Et c'est ça que j'ai trouvé les scènes les plus touchantes et les plus belles en fait finalement. Ouais.
Je suis totalement d'accord. Mais c'est, enfin tout ça, c'est peut-être parce que, enfin dans son travail, dans ses films, Naomi Kawase, elle fait, enfin l'intrigue et la progression dramatique, elles sont toujours minées de l'intérieur, elles se délitent, enfin elles sont explosées à l'intérieur, plein de visions justement poétiques, soit des plans sur la forêt, bon décontextualisés, soit aussi dans le film il y a des passages que je crois être du documentaire avec des habitants de la région qui viennent voilà miner le récit, un peu disperser tout ça, et en fait on a presque envie, comme tu dis, que les personnages se tèchent, c'est-à-dire que qui ait plus de signification fictionnelle par-dessus, on a envie que ça se délite complètement, que presque ce soit du film muet. On a envie que
ça
soit
c'est amusant, je lis dans Libé d'incompréhensibles scènes de danse ou de documentaires tout juste dignes à fournir des séquences à l'Office national du tourisme japonais. Mais donc cet aspect du film qui vous a séduit. Il est peut-être dans un entre-deux dangereux entre le docu et la fiction qu'il n'arrive pas à tenir.
Soit c'est ce côté-là, soit on peut préférer effectivement une vraie fiction avec une vraie progression de vrais personnages, mais là pour le coup.
C'est ça. C'est ça. Tu parles d'entre-deux. J'ai vraiment trouvé que c'était ça en fait. C'était un peu un entre-deux raté. En fait, je pense que le film aurait gagné à se positionner vraiment plus clairement entre soit faire un film carrément contemplatif, documentaire, où la nature a toute sa place et des dialogues vraiment pas inexistants, mais voilà, très encore moins de dialogues, ou alors des dialogues plus choisis, on va dire, ou alors un film vraiment avec une intrigue plus poussée et pas cette espèce de fourre-tout là, on comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc voilà, le film, je pense, aurait gagné vraiment à choisir clairement entre côté contemplatif et une intrigue voilà vraiment plus poussée que cette espèce de pseudo-intrigue avec la plante là qui n'en est pas vraiment une finalement, parce qu'on s'en mêle plus qu'autre chose et ça vient un peu briser tout ce qui fait l'intérêt du film, c'est-à-dire le fait que ça suggère qu'on aurait pu prendre cette forêt comme un objet aussi de réflexion plutôt que voilà.
Ok, donc du coup, on ne va peut-être pas forcément le voir, ce film.
Peut-être pas, enfin moi je le conseille pas, à la fin je regardais même plus, enfin, c'était assez terrible.
Ouais non, un entre-deux un peu raté.
Ok, dommage, et bien alors si jamais vous voulez tenter quand même, ça s'appelle Voyage à Yoshino et c'est signé Naomi Kawase. Et tout de suite, on se retrouve bien sûr comme chaque semaine pour quelques conseils de sortie. Et je commence tout de suite avec Wildlife, film de Paul Dano, film qui faisait l'ouverture de la semaine de la critique à Cannes et qui suit un couple dans les années 60, un couple avec un jeune enfant. Elle, c'est Carey Mulligan, lui, c'est Jake Gyllenhaal. Et justement, c'est l'émancipation de cette femme qui va se mettre à travailler alors que son mari, joueur de golf, perd son travail, ne s'en remet pas. Et vu en partie du regard de cet enfant, on va suivre donc l'émancipation de cette femme dans une tension psychologique qui s'établit entre les trois personnages. Voilà un film qui est le premier film de Paul Dano comme réalisateur. Et qui filme donc ces années 60 américaines, ces petits paysages du rêve américain avec une touche très très personnelle. Ça sortira donc mercredi et ça s'appelle Wildlife.
Got this homicide in my head. I need to do something about it. You understand?
I think your father has a woman out here.
No, he wouldn't do that.
No? Why do you think men do things?
Deux événements pour le prix d'un cette semaine. Le premier, ça sera ce samedi. Ça commence à 20h30 et ça durera jusqu'à 7h du matin. La nuit, super-héroïne proposée par l'Institut Lumière, donc quatre films de super-héroïne dans la belle salle de l'Institut pendant toute la nuit. Et donc à 20h30, on démarrera avec Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher. Puis à minuit, Boulevard de la mort de Quentin Tarantino, comment passer à côté bien sûr. Et puis on remonte encore un petit peu dans le temps avec Nikita de Luc Besson, avant de terminer avec l'inévitable Mad Max Fury Road pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Ça sera donc à l'Institut Lumière ce samedi soir. Et puis j'annonçais donc un deuxième événement, c'est le Festival d'Ocancourt pour la 18e édition qui aura lieu cette année, donc de ce jeudi 13 jusqu'à dimanche au Ciné Café Aquarium dans le 4e arrondissement. Alors qu'est-ce qu'on y trouvera dans ce festival donc de courts-métrages documentaires? Eh bien 4 journées consacrées au cinéma documentaire d'aujourd'hui, peut-être de demain, c'est ce qu'annonce le site. 7 projections de courts-métrages documentaires réalisées par des étudiants d'Europe mais aussi du Maghreb, la grecque me travaille encore on dirait. Et puis donc une table ronde sur les conditions de production du court-métrage documentaire. On aurait voulu en faire un coup de projecteur cette semaine et manque de temps on n'a pas pu, mais c'est donc un événement à suivre, le festival d'Ocancourt au Ciné Coiffé Aquarium cette fin de semaine. Et puis du côté des films à revoir mais couplé à un événement, ça sera Minnie et Moskowitz, le très grand film de John Cassavetes. Minnie Moore et Seymour Moskowitz, deux êtres que tout oppose, lui gardien de parking un peu beatnik, elle femme élégante et raffinée qui travaille dans un musée. Et c'est leur admiration inconditionnelle pour l'acteur Humphrey Bogart qui sera leur point commun. Lorsque Moskowitz intervient donc dans la violente dispute entre Minnie et son amant, les deux âmes emplies de solitude se rencontrent pour cette grande, belle, célèbre et tumultueuse histoire d'amour qui sera projetée dimanche à 11h15 et puis qui sera accompagnée d'une rencontre avec Florian Chocard, comédien, metteur en scène de la pièce Cassavetes justement, qui se joue actuellement au théâtre des Clochards Célestes. Le comédien propose d'ailleurs un tarif groupé pour voir le film et la pièce pour découvrir Cassavetes sous différentes facettes.
John Cassavetes has a continuing love affair with people. He finds them fascinating. Now he reaches into the crowd and picks a couple of rare originals.
Seymour Moskowitz.
Minnie Moore.
Minnie and Moskowitz. It's that kind of a love story. Jenna Rollins is Minnie.
Get more aroused, more willing to give of myself.
Seymour Cassell is Moskowitz.
When I first looked at you, I said, "That, there she is, that's the girl."
Voilà, et puis pour celles et ceux qui en voudraient encore un petit peu, plusieurs des films de ces dernières semaines sont encore en salle, surtout si on vous a un petit peu découragé d'aller voir Voyage à Yoshino. En particulier, bien sûr, Diamantino, couvert la semaine dernière, est toujours à découvrir en salle cette semaine. Et puis, je signale que la partie 3 des Âmes mortes, qui avait fait l'objet d'un coup de projecteur il y a quelques temps, sera projetée vendredi à 17h au Zola. Le réalisateur, le grand documentariste chinois Wang Bing, qu'on suit toujours avec autant d'attention.
Okay, soldier.
coming out. Okay, soldier? I got no gun and I'm coming out. Soldier!
Vous écoutiez D'Étoiles plein les yeux, le magazine de cinéma de Transistor avec cette semaine Marie-Dounia Kelly-Rofast, Rémi Cerda. On se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour l'étho de Kirill Serebrennikov. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.
I want you to calm down.